VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Libreville au Gabon. Bonjour à tous. Le missionnaire américain tué par balle mardi en zone anglophone du Cameroun a été la cible de terroristes lors d'une tentative d'attaque contre une brigade de gendarmerie et une zone universitaire, a affirmé aujourd'hui le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo. Sur les réseaux sociaux, plusieurs séparatistes des régions anglophones ont quant à eux imputé la responsabilité de la mort de l'américain à l'armée camerounaise. Charles Wesco, missionnaire américain de 44 ans, se trouvait à bord de son véhicule en compagnie de son épouse, de son fils et de son chauffeur lorsqu'il a essuyé mardi un tir en provenance des terroristes embusqués, a écrit M. Betty Assomo dans un communiqué lu à la radio d'État. Une télévision privée du Cameroun qui avait annoncé la mort du président gabonais Ali Bongo Ondimba, hospitalisé en Arabie Saoudite, a été suspendue pour 6 mois par la haute autorité de la communication, la HAC. Inexacte et trompeuse, l'annonce de la mort du président Bongo Ondimba par Vision 4 a porté atteinte à l'unité nationale, la cohésion sociale et l'ordre public, selon la HAC dans un communiqué aujourd'hui. Le président gabonais âgé de 59 ans a été hospitalisé le 24 octobre à Riyad à la suite d'un malaise, selon Ike Ungoni Aila Oyomi, le porte-parole de la présidence à Libreville. Et toujours au Gabon, le parti au pouvoir a raflé 98 des 143 sièges de l'Assemblée nationale lors des élections législatives des 6 et 27 octobre. Les partis affiliés à la majorité ont aussi remporté quelques sièges. L'opposition a gagné au total 17 sièges, mais Jean Ping a boycotté le scrutin. Ces législatives, plusieurs fois reportées, étaient le premier scrutin d'importance depuis la présidentielle de 2016, marqué par des violences meurtrières. Pour analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Libreville, l'analyste politique Auguste Yéné et Sono.
L'opposition gabonaise potentiellement un avenir, si et seulement si on lui donne la place, si et seulement si une vraie démocratie se développe dans ce pays, lui donne la place qu'elle mérite. L'avenir de l'opposition se trouve dans la possibilité qu'elle va avoir de ne pas considérer que le scrutin de 2016 fait partie du passé. Parce que vous savez, dans ce pays, nous vivons toujours sur le contentieux. Du moins, lorsqu'on fait une analyse sociologique, le Gabon vit toujours sur le contentieux de 2016. La majorité de Gabonais considère toujours que l'élection de 2016 a fait élire Jean Ping et que Jean Ping n'a pas, d'une certaine façon, n'a pas joué de la légitimité que le peuple gabonais lui a reconnu à travers le suffrage. Les Gabonais sont restés sur ce contentieux-là parce qu'ils considèrent que le pouvoir a été usurpé.
La vraie opposition se joue au Parlement. Jean Ping a boycotté les législatives. Est-ce que ça n'a pas été une erreur de sa part?
Non. Jean Ping est sur l'idée simple et légitime que 2016 a été caractérisé par un vote massif en sa faveur et qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, ni en 2016, ni en 2020. À partir de ce moment, il est tout à fait attendu et légitime que Jean Ping et ses partisans considèrent que l'histoire s'est arrêtée en 2016. J'estime qu'on ne peut pas parler de boycott à partir de ce moment-là.
Est-ce que l'opposition n'apparaît pas aujourd'hui plus isolée que jamais?
Le combat que mène cette opposition est surtout un combat qui porte le sceau des bases de souveraineté, des causes populaires. Vous savez, vous pouvez gérer un pays aussi longtemps que vous voulez. Si vous gérez un pays sans vous soucier de ce que les causes populaires adhèrent à votre gouvernance ou pas, si vous ne vous souciez pas de cette question, vous pouvez durer longtemps, aussi longtemps que vous voulez. Toujours est-il que le pays que vous gérez ou le pays que vous prétendez gérer, ce pays, historiquement, est en difficulté. À partir de ce moment, ce n'est pas l'opposition qui est isolée, mais c'est plutôt le pouvoir en place qui est isolé en interne.
Mais une partie de l'opposition a participé à ce scrutin. L'opposition se disperse.
Oui, je peux vous le concéder. Il y a ce qu'on appelle ici l'opposition au service. Il y a ceux qui s'opposent au gouvernement qui est mis en place et qui, en fait, sont des alliés autour d'intérêts qui parfois sont obscurs, des intérêts non pas politiques, mais des intérêts politiciens.
L'analyste politique Auguste Yéné Sono. En Côte d'Ivoire, le PDCI, l'un des trois grands partis politiques, a appelé hier à Abidjan à une réforme en profondeur de la commission électorale indépendante qui devrait déboucher sur une institution crédible dominée par la société civile. Ekia Badou
Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif chargé de la communication du PDCI, a dit hier dans une conférence de presse à Abidjan que la CEI n'est plus indépendante, elle est inféodée au régime. La CEI n'est pas crédible, elle doit être réformée. Le parti de l'ancien président Henri Conan Bédié veut une CEI autonome, véritablement indépendante, avec une forte représentation de la société civile. Si nous voulons que les élections présidentielles de 2020 soient crédibles et nullement entachées d'irrégularité, il faut revoir la CEI, a-t-il ajouté. Son parti appelle aussi à un nouveau découpage électoral avant la présidentielle de 2020. La coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a largement remporté les récentes municipales et régionales couplées. Le RHDP contrôle 92 municipalités contre 56 aux indépendants et 50 au PDCI, ancien allié du RHDP, passé dans l'opposition.
Les frères ennemis du Soudan du Sud fument aujourd'hui le calumet de la paix. Riek Machar est arrivé à Juba après plus de 2 ans d'absence pour participer à une cérémonie célébrant la signature d'un nouvel accord de paix au Soudan du Sud. La cérémonie se déroule au mausolée John Garang, héros de la guerre d'indépendance contre le Soudan, en présence de milliers de personnes. Plusieurs chefs d'État de la région ont fait le déplacement de Juba pour sceller la réconciliation entre Riek Machar et le président Salva Kiir, le Soudanais Omar El-Béchir, la présidente éthiopienne nouvellement nommée Saleh Wargsoudé et son homologue somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed ont gagné Juba ce matin. Le président ougandais Yoweri Museveni y était également attendu.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les enquêteurs russes ont annoncé que l'auteur de l'explosion ce mercredi dans une antenne régionale des services de sécurité à Arkhangelsk, dans le nord de la Russie, était un adolescent de 17 ans tué par son engin explosif et ont ouvert une enquête pour acte terroriste. Selon des informations préliminaires, c'est un résident local de 17 ans qui avait introduit un engin artisanal dans le bâtiment. Il a annoncé le comité d'enquête, organe dépendant du Kremlin et chargé des principales affaires, dans un communiqué. Le candidat du Premier ministre Benjamin Netanyahou à la mairie de Jérusalem a été éliminé dès le premier tour des municipales organisées lundi en Israël. Les deux finalistes devront désormais se départager lors d'un second tour le 13 novembre. Selon les résultats officiels divulgués aujourd'hui, aucun des 6 candidats à la mairie de Jérusalem n'a atteint la barre de 40% requis pour être élu. À Tel Aviv, le maire sortant Ron Hulda est membre du parti travailliste à la tête de la capitale économique du pays depuis 1998, a pour sa part été réélu à Haïfa dans le nord. L'élection d'Enat Kalish Rotem, qui a largement franchi la barre de 40%, a créé la surprise. Elle devient ainsi la première femme à diriger l'une des 3 plus importantes villes d'Israël après avoir évincé Yona Yahav, maire depuis 15 ans. La Chine est grande ouverte aux produits étrangers. C'est le message que Pékin va tenter de faire passer la semaine prochaine lors d'une grande foire aux importations organisée à Shanghai en pleine guerre économique avec l'Amérique de Donald Trump. Signe de l'importance donnée à l'événement, il sera inauguré par le président chinois Xi Jinping en personne. Mais si quelques dirigeants étrangers sont attendus, les États-Unis n'enverront aucune personnalité de haut rang. Un hélicoptère de l'armée afghane s'est écrasé aujourd'hui dans l'ouest du pays, tuant les 25 personnes à son bord. Les talibans ont affirmé avoir abattu l'hélicoptère qui s'est écrasé dans le district de Anadara, dans la province de Farah, dans l'ouest de l'Afghanistan. Un porte-parole du gouverneur de cette province a pour sa part mis le crash sur le compte du mauvais temps. L'hélicoptère transportait 2 pilotes et 23 passagers, dont le chef du conseiller provincial de Farah, selon M. Meri. Un kamikaze, toujours en Afghanistan, a visé ce matin un bus transportant des fonctionnaires près de la principale prison de Kaboul, faisant au moins 7 morts selon des responsables. Au moins 5 autres personnes ont été blessées dans cette attaque qui visait un bus transportant des employés de la prison de Pulchaki, selon un porte-parole de la police, Bassi Mouchaïd. Et puis la Cour suprême du Pakistan a acquitté en appel la chrétienne Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème en 2010 et dont le cas avait suscité l'indignation à l'étranger et des violences dans le pays. Selon un verdict rendu ce mercredi, elle a été acquittée de toutes les accusations, a déclaré le juge lors de l'énoncé du verdict à la Cour suprême, ajoutant que Mme Bibi allait être libérée immédiatement. Fin de ce journal, le prochain dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.